Vous écoutez RTL.
Les Incas ont laissé en héritage de fabuleux trésors où l'or prédomine.
20h-22h.
L'or, c'est le soleil. Ça n'a aucune valeur monétaire. C'est pour ça que l'or avait une telle importance pour ces peuples.
La curiosité est un vilain défaut.
L'Inca était le fils du soleil.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
L'or, c'est ce qui fait rêver notre invité. Il a le look de Rambo et le verbe de San Antonio. Bonsoir, Philippe Esnos.
Bonsoir.
Je fais un peu la moue, Philippe Esnos, en entendant le look de Rambo.
Sur le terrain, dites donc, je vous ai vu, vous avez un bandeau autour... autour de la tête, vous avez des couteaux sur le côté, vous faites assez aventurier quand même.
Bon, le bandeau, c'est parce que d'abord je suis sujet à la transpiration et quand ça tombe dans les yeux, c'est pas bon.
Surtout,
non, je minimise pas, non, pas du tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en plus de ça, il y a toujours du crachin ou de la pluie, voilà.
Vous êtes un chercheur de trésors, c'est un métier ça, chercheur de trésors?
Bah écoutez, j'en connais qui ont, oui, qui en ont fait toute leur vie. Leur métier, ouais.
Vous en faites votre métier.
Moi, j'en ai fait un métier pendant plusieurs décennies, ouais, tout à fait.
Qu'est-ce que vous cherchez, Philippe Esnos? Qu'est-ce que cherche le chercheur de trésors?
Chercheur de trésors, il y en a plusieurs catégories, mais enfin, celles qui relèvent de la mienne sont des gens qui sont surtout des rêveurs, des aventuriers, des romantiques. Même si on a des méthodes un petit peu musclées, il en demeure pas moins qu'on reste quand même dans un esprit surtout d'aventure.
Mais comment vous...
On est sur les traces de Jack London, enfin voilà, des histoires comme ça. Et donc, c'est ça qui nous conduit avant l'affaire, disons, pécuniaire de l'opération.
Comment vous remontez la trace des trésors que vous cherchez, Philippe Esnos? Ça existe, les cartes aux trésors?
Non.
Non, y a ça serait trop facile.
Il y a des plans, il y a des... moi j'en ai jamais vu digne de ce nom, ni dans les plans et cartes ou à la Bibliothèque nationale, ni aux archives nationales, ni dans... Non, il n'y a aucune archive. Non, j'ai vu des plans, des croquis, des histoires comme ça, mais qui étaient le fait de prédécesseurs.
Alors comment, qu'est-ce qui vous met sur la piste de ces trésors?
Alors là, c'est un travail
de... Vous écoutez aux portes?
Non, c'est un travail de rat de bibliothèque. Avant de commencer à aller sur le terrain, c'est des années à faire le rat de bibliothèque, à déchiffrer la paléo de la Renaissance espagnole, française, anglaise, hollandaise, selon les portugaises, selon les zones où vous souhaitez aller sévir. Moi, en l'occurrence, j'avais choisi l'Amérique espagnole. Donc, j'ai passé des années à fouiller dans les archives religieuses et civiles espagnoles. Et de traduire la paléo. Quand je comprenais rien, je faisais traduire par des moines ou par des gens comme ça, voilà.
Ça me fait penser à Indiana Jones, votre histoire.
Puisque oui, sauf que film, moi, je suis ça, pas professeur d'université, ouais. Voilà, c'est tout.
D'accord.
Mais vous êtes rat de bibliothèque.
Ça commence par des recherches. Et est-ce qu'il y a des questions d'autorisation? Oui, j'imagine.
Ah oui, bah alors là, on rentre dans un débat et une polémique.
Bah racontez-nous. Parce qu'une fois que vous avez autorisations... trouvé le lieu du présupposé trésor, il faut y aller?
Non, ça se passe pas comme ça. Vous faites des recherches, dans les archives. Après, vous définissez, vous dites, je choisis cette zone, je vais là-bas. Prenez un billet d'avion, vous débarquez là-bas, vous regardez l'ambiance, qu'est-ce qui se passe.
Est-ce que je suis bien accueilli?
Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Est-ce qu'il y a un ministère de la Culture? Est-ce qu'il n'y en a pas? Qui est-ce qui contrôle tout ça? Vous vous renseignez sur place. À partir de là, vous voyez ce qui est possible et pas possible. En général, du moins, je parle de ce que je connais, moi, c'est-à-dire les pays où j'ai traîné mes bottes, c'est-à-dire l'Amérique espagnole, c'est-à-dire Amérique centrale, Amérique du Sud. Mm-hmm. Tant que vous faites, si vous voulez, de la recherche, de l'exploration, on va dire. Bon, on vous pose pas de problème, vous n'êtes pas embêté. Vous êtes supposé, à partir du moment où vous découvrez quelque chose ou des indices importants, de les déclarer. Voilà. À partir du moment où vous faites pas ça, vous rentrez dans la clandestinité. Alors après, bon, la clandestinité là-bas, c'est un grand mot, puisque ça s'appelle la corruption, ça s'appelle... tous les métaux fondent, c'est une question de température. Quoi.
Mais quand voilà. Vous dites de l'exploration, c'est quoi la différence entre explorer et ce que vous faites, vous, Philippe?
Explorer, ça veut dire que vous partez avec vos archives, vous vous dites, dans cette zone, il devrait y avoir ça et ça et ça, selon les archives.
Ça ne veut pas dire creuser, comme vous faites?
Non, vous creusez pas, vous partez léger, vous partez avec du matériel très léger. Vous faites uniquement une reconnaissance, si vous voulez, vous vous dites... question. Bon, là, comment ils ont pu arriver là avec 2000 gus? C'est pas possible. Il y a un problème là. Donc, ça doit pas être le. Bon, voilà. Vous recoupez les informations et vous voyez la zone, comment elle se présente.
Alors, pour partir à la recherche de ces trésors, vous devez d'abord renflouer votre compte en banque concrètement, parce que ça coûte cher tout ça, puisqu'il faut quand même souvent graisser la patte des policiers. Comment vous vous faites pour remplir votre compte en banque? Vous exploitez, vous participez?
Alors là, il y a.
Exploiter de l'or, c'est ça?
Voilà, il y a deux. Dans ce cas-là, comme on dit vulgairement, il y a deux options. La bonne est celle de l'école de guerre. Donc la bonne, ça consiste à s'autofinancer, celle de l'école de guerre, d'aller faire le porte-à-porte pour trouver des sponsors. Moi, j'ai toujours agi de manière personnelle, c'est-à-dire que je me suis toujours autofinancé. Les quelques fois où j'ai été sponsorisé sont rares, ça a été peut-être trois fois ou quatre fois sur plus de 30 ans, et à chaque fois, ça se passe mal. Voilà. Parce que les types, ils s'imaginent qu'est-ce qui vous en est, qu'on y va, on s'en va et on revient avec le trésor.
C'est pour ça que vous avez monté un système d'exploitation d'or, notamment sur les berges du Kirouyuki. Mais on va en parler dans un instant. On vous garde avec nous. On continue de raconter la vie d'un chercheur de trésors sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
C'est rare et c'est une émotion. On a un chercheur de trésors dans le studio d'RTL.
Il cherche et il trouve.
Philippe Esnos. Moi, je disais tout à l'heure l'Indiana Jones. Mais oui, c'est notre Indiana Jones français. D'ailleurs, vous continuez là aujourd'hui. Vous rentrez d'où
Oui, je continue. Sauf que là, je me suis remis à rechercher les trésors sous-marins. Activité que j'avais abandonnée il y a à peu près 22 ans. Pour me consacrer au trésor à terre.
Donc là, vous étiez où il y a quelques semaines, par exemple?
J'ai envie de revenir un petit peu sur les trucs sous-marins. Mais là, récemment, j'étais sur les Bahamas, notamment, dans la mer des Caraïbes.
Donc vous cherchez quoi? Des vaisseaux, des galions?
Oui, bien sûr, oui. Ouais.
Et alors, vous en avez trouvé?
Ah, ça, c'est confidentiel, c'est un peu.
C'est dur de faire parler à un chasseur de trésors.
Non, si, j'en ai trouvé il y a 25-30 ans. J'en parle dans mes livres, donc je peux en parler. Ouais. Mais là, actuellement, c'est très confidentiel parce qu'on n'est pas tout seul.
Eh oui.
Il y a une compétition qui est ardue face à des gens qui ont des moyens colossaux.
Alors justement, on parlait de moyens, Philippe Esnos. L'argent, c'est vraiment la clé de tout pour vos expéditions. Et pour avoir votre petite mallette de sous pour graisser la main, par exemple, de quelques policiers. Alors, je parle un peu comme
pas seulement.
Vous, hein, là, son Antonio, mais
attendez, pour pouvoir... Vous arrêtez là-dessus, il n'y a que...
Non, mais vous le racontez dans votre bouquin.
Le matériel de détection, ça coûte l'équivalent de 100 policiers corrompus, si vous y allez par là.
D'accord.
Si c'est ça votre...
Alors, c'est quoi votre matériel?
De valeur, pardon.
Non, mais c'est vous qui le racontez, cette exploitation d'or.
L'or des Incas entre rêve et malédiction, c'est le titre de votre livre, publié aux éditions du Trésor, et bien nommé.
Mais c'est vrai qu'il faut, où on a un sponsor, on n'en a pas, ce que je disais.
Donc vous ne voulez pas me raconter l'exploitation de l'or sur les berges du Rio Yopi?
Non, parfaitement.
Ça nous intéresse, parce que c'est incroyable ce que vous avez mis en place.
Pour me financer, à l'époque où je faisais les expéditions sous-marines, j'avais mon propre bateau. Quand il ne servait pas à faire la plongée et les recherches d'épaves, je l'utilisais pour faire ou de la pêche, ou du transport, ou des clubs de plongée. Enfin bon, j'utilisais la plateforme qui était le bateau. Quand j'ai plus eu de bateau, je cherchais les trésors à terre. Là, je me suis mis dans une activité que je maîtrise bien, c'est-à-dire l'orpaillage, c'est-à-dire chercher de l'or alluvionnaire, de l'or, géologique, quoi. Enfin,
ouais. Voilà. Dans quelle région vous faites ça?
J'ai bossé en Guyane française, j'ai bossé au Brésil, au Costa Rica, en Équateur, bien sûr. Donc là, je monte une équipe de 10, 15, 20 personnes. J'achète 2, 3, 4 camions, des pelles hydrauliques, etc. Et puis on part dans la jungle, dans les montagnes ou dans la jungle. Et puis on prend de l'or, quoi.
Puis comment vous travaillez ça, l'eau de la rivière, le sable, c'est avec des machines particulières?
Oui, on a ce qu'on appelle des trommelles ou des lessiveuses, ça c'est le mot employé en Afrique. Ce sont des appareils qui servent à laver le sable et les graviers, et puis à séparer, on va dire, l'or de les stériles du non stérile.
Et je voudrais qu'on parle de votre campement, parce que dans votre livre, vous écrivez ceci. Tout ça peut paraître un chouïa excessif, mais je ne vois pas pourquoi, sous prétexte que je suis dans la jungle, je devrais vivre comme un pouce mégot. Ça
ressemble à quoi, votre campement?
Là, il y a la langue qui
c'est-à-dire que moi, c'est pas parce que je vis au fin fond. Moi, j'ai toujours vécu ou comme un seigneur ou comme un clodo. J'arrive pas à me mettre entre les deux. Alors donc, quand j'étais dans la jungle, je vivais, ça m'empêchait pas, bien que travaillant dans la boue, sous la pluie, avec tous mes gars, le soir, dans ma tente, dans mon campement, j'avais amené avec moi ma cantine, dans laquelle j'avais mes couverts en argent de famille, où j'avais mes verres en cristal de bohème, et j'avais emmené mes munitions de whisky de précision, et puis de vin convenable.
Quoi. Bon, concrètement, à la fin, Philippe Esnos, vous partagez l'or entre vous et les Indiens, qui vous ont aidé à l'extraire. Une fois que tout ça s'est amassé, vous pouvez partir à la chasse au trésor, par exemple. Dans les années 90, vous partez à l'assaut de la montagne sacrée des Llanganatis, c'est en Équateur. Vous cherchez quoi précisément là-bas?
Je recherche la rançon, une des caches, parce qu'il y en a eu plusieurs, de la rançon dite d'Atahualpa, donc qui avait été exigée par le conquistador Pizarro auprès de l'Inca Atahualpa avant de le.
C'est au XVIe siècle.
De le tuer. Oui, 1533.
Ouais. Vous le trouvez?
Non, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé des caches, j'ai trouvé quelques trucs, mais j'ai pas trouvé l'endroit, le gros endroit.
Vous l'avez pas encore trouvé.
Oui. Dans quelles conditions ça se passe, une chasse au trésor comme ça? Je sais pas, c'est dans la montagne, c'est difficile d'accès.
Ah ouais, ouais. Alors là, il faut vous dire que d'abord, une expé à pied, c'est. Pour rien vous cacher, il y a plusieurs équipes, notamment. Je dirais pas de quelle télévision française et autres qui ont voulu me suivre, ils se sont arrêtés au bout de 4 jours, les types. Ils m'ont laissé les caméras en disant tu filmes, nous on t'attend à quitter.
C'était trop dur.
Ouais, non, c'est le parcours du légionnaire, quoi. Sauf qu'en plus de ça, c'est même pire parce que ça dure 40 jours et pendant 40 jours, vous êtes sous la pluie, dans la boue. Enfin, les conditions atmosphériques sont dures, quoi.
Voilà. Alors, justement, on va voir que les pires ennemis d'un chercheur de trésors, ce sont les hommes, mais aussi la nature, et certaines expéditions peuvent parfois virer au cauchemar. Restez avec nous sur RTL.
Dans un instant, retour de la curiosité sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
RTL.
20h-22h.
La culture Inca remonte à plus de 2000 ans. Assez de temps pour se constituer un trésor de taille.
La curiosité est un vilain défaut.
L'objet en or est donc partout, mais il est surtout le symbole d'une hiérarchie. L'occasion de découvrir le monde des Incas de l'intérieur.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est un aventurier, une tête brûlée que nous recevons ce soir dans notre studio RTL. Philippe Esnos, vous êtes chercheur de trésors depuis plus de 30 ans. Vous allez nous raconter l'une de vos expéditions. Vous partez en quête d'un trésor qui serait immergé dans la lagune sacrée de Santa Barbara. Nous sommes toujours en Équateur ?
Oui, oui, tout à fait, oui.
Et qu'est-ce que vous cherchez ? Quelle est la promesse de ce trésor ?
Les lagunes sacrées de Santa Barbara et autres qui sont autour, c'est antérieur aux Incas, puisque c'était les Indiens Cañaris, qui étaient là-bas et qui ont été réduits en esclavage par les Incas quand les Incas ont pris le pouvoir qui a duré 70 ans, comme on sait. Et à l'époque, les offrandes, eux, croyaient en la couleuvre. Contrairement aux Incas, les Cañaris croyaient à la lune, non pas au soleil, et à la grande couleuvre qui était dans un lac. Et cette couleuvre devait être honorée deux fois par an. Et deux fois par an, tous les peuplades montaient avec les prêtres et on balançait des offrandes dans cette lagune. C'était tellement plein d'offrandes, plein d'or, plein de choses comme ça, qu'au moment de la conquête, Gonzalo Pizarro, le frère de Pizarro, avait demandé à ce qu'on vide cette lagune. Et le plus amusant, c'est que les moines et les curés de l'époque, qui accompagnaient les conquistadors, avaient dit il faut absolument extraire ces trésors. Oui, pas ces trésors.
Ces offrandes.
Oui, mais qui étaient contre la religion, quoi, si vous voulez. Et donc, bon, ils n'ont jamais réussi à vider cette lagune, parce que c'est quand même pas évident.
Donc ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est tombé dans l'oreille de Philippe.
Mais ça, c'est pas tombé dans mon oreille.
Comment vous l'avez su, tiens?
Mais on l'a su parce que c'est le courrier entre Charles Quint et Gonzalo Pizarre, qui est conservé aux Archives Générales des Indes à Séville. Et quand vous faites le rat de bibliothèque, vous faites tout ça. Vous regardez la correspondance qu'il y avait entre les conquistadors, Philippe II, enfin Charles Quint d'abord, et Philippe II ensuite.
Ensuite, vous y allez. Pour chercher quoi
Pour chercher quoi? Pour essayer d'extraire, justement, de trouver ces trésors qui sont là, qui sont les offrandes qui avaient été faites par...
Alors, qu'est-ce que vous trouvez? Le terrain, c'est quoi?
C'est trois jours de marche. Pour y arriver, déjà, c'est une marche d'enfer. Puisqu'évidemment, tout ça, c'est à 4002 que ça se passe. Hein.
D'accord.
Après, c'est un lac dans lequel vous plongez. C'est un petit lac. Et dans lequel on plonge, et puis comme c'est que de la vase et tout, c'est quand même assez dangereux. Moi, j'ai failli rester collé au fond, là, une fois. Et après, on amène ce qu'on appelle des dévaseuses, une pompe, si vous voulez, pour aspirer la vase et puis le fond, enfin, ce qu'on fait partout quand on fouille des épaves ailleurs.
Vous avez trouvé, alors, Philippe Esnos, au fond de cette lagune sacrée de Santa Barbara?
J'ai pas trouvé grand-chose, j'ai trouvé les preuves, j'ai trouvé quelques pièces, j'ai trouvé quelques poteries, j'ai trouvé quelques bricoles comme ça. Mais enfin, qui ont confirmé, si vous voulez, le fait que tout ça était parfaitement exact. J'aurais pu faire beaucoup plus, mais à condition de monter avec du matériel, du gros matériel, on va dire, matériel de travaux publics.
Mais ça veut dire que d'autres étaient passés avant vous ?
Sauf que là, ils m'auraient tué avant, à mi-chemin, les Indiens.
C'est-à-dire ?
Si vous voulez, ils savent que c'est une lagune sacrée, par la mémoire orale. Ce qui fait que pas question d'aller mettre les pieds là-dedans.
Mais est-ce qu'un petit peu plus loin, dans une autre lagune, vous allez découvrir un butin incroyable, il me semble?
Ah oui, c'est pas dans la lagune, c'est les contreforts. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient tendance à mettre leurs morts dans des cavernes et dans des falaises qui étaient justement au-dessus de ces lagunes. Donc c'était les caciques, les gens influents, et qui étaient mis là.
Et là, vous avez qu'est-ce que
alors
vous avez
là,
découvert?
Là, effectivement, là il y a des momies. À l'heure où je vous parle, si les archéologues étaient moins cons, je les aurais amenés là-bas, ils feraient des découvertes fabuleuses.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que
c'est un peu en guerre contre eux parfois.
C'est eux qui sont en guerre contre des gens comme moi. Et ils ont totalement, tout à fait tort.
Ils vous accusent de pilleurs de tombes concrètement,
oui,
c'est ça.
C'est-à-dire que eux, quand ils profanent une sépulture, ils appellent ça fouille archéologique. Vous voyez, ça c'est leur terminologie. Moi, si je fais ça, je suis un pilleur de tombes.
Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites de tout ce que vous découvrez? Vous le vendez à qui? C'est peut-être là.
Alors moi, je vends une partie quand j'ai pas de sous à des collectionneurs. Ce qui permet, sur place...
Des collectionneurs privés, donc?
Oui, privés, sur place. Ce qui permet d'abord que les pièces ne quittent pas le territoire, qu'elles soient gardées par des gens qui sont amateurs, donc qui ne vont pas les fondre, qui vont les garder. Le patrimoine va rester sur place. Eux, ils vont me donner des sous. Je vais pouvoir remonter une autre expé. Ça, c'est une partie du butin. Et l'autre partie, je les donne aux moines. Parce que c'est eux qui m'ont laissé rentrer dans leurs archives où ils laissent rentrer personne.
Mais les archéologues, ils font quoi alors, contrairement à vous?
Pardon,
ils... Les archéologues, quand eux font des découvertes, ils...
Non, d'abord, les archéologues, ils font pas de découvertes, sauf si on leur dit à tel endroit, il y a telle et telle chose. J'ai jamais vu un archéologue dans les archives faire des recherches en archives. Ils font des découvertes, c'est fortuit, c'est-à-dire quelqu'un leur dit tiens, on a trouvé un truc là, il faut que vous veniez.
Et
on
c'est pas dit, un peu caricatural ce que vous...
Ah pas du tout, je peux vous dire que la collection d'or de la Banque centrale de Quito provient d'un collectionneur privé hollandais d'ailleurs ou allemand, je me souviens plus, qui a dit à sa mort qu'il en faisait cadeau au pays. Tout ce que vous voyez exposé, que ce soit à Lima ou à Bogota, ouais, c'est tout, sans aucune provient de pillage.
Mais pareil, combien ça rapporte la pièce que vous avez vendue le mieux?
C'est complètement... Si vous voulez, c'est un gentleman agrément avec le collectionneur. Les collectionneurs qui achètent ça sont des gens richissimes, qui n'ont pas besoin d'argent, et qui sont des amateurs, quoi, et qui gardent ça... Je suis passé dans le National Geographic, dont je fais partie d'ailleurs, parce que je fais partie du National Geographic américain, où ils expliquent parfaitement ça, où ils vous racontent que c'est heureusement que ces gens-là achètent. Parce que sinon, le pilleur de tombe, je parle pas de moi, moi j'ai des connexions, j'ai pas besoin de faire ça. Mais le pilleur de tombe moyen, qu'est-ce qu'il fait? Il fond pour s'acheter un taxi ou une épicerie. Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr.
Alors ce type-là, on le fout en tôle aussitôt qu'on l'attrape, mais aussi sait que son frère, son cousin, son neveu, sa sœur prennent la suite. Je veux dire, c'est un truc... Voilà, c'est tout. Ça se passe comme ça.
À force de défier parfois les autorités et les dieux incas, peut-être notre chercheur de trésors s'est attiré une fois quelques ennuis. On va vous raconter ces mésaventures rocambolesques dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Indiana Jones, évidemment, parce que notre invité est un aventurier, chercheur de trésors. Il cherche, et il trouve d'ailleurs, Philippe Esnos qui raconte son histoire dans un livre « L'or des Incas entre rêves et malédictions » publié aux éditions du Trésor. Est-ce que vous êtes riche?
Non.
Ça rapporte pas?
Ben, ça dépend de ce qu'on entend, puisque moi je remets tout dans les recherches. Je suis riche en expérience, par contre.
C'est-à-dire que l'argent que vous gagnez, vous le réinvestissez dans un nouveau défi? Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous amuse? De chercher?
Ben, ça m'amuse pas, c'est un challenge, c'est un rêve d'enfant. C'était moi à l'école communale ou plus après, quand je faisais mes humanités chez les oratoriens et les jésuites, c'est le rêve de quelqu'un dans la vie, il y en a un, c'est d'avoir une Maserati, l'autre d'avoir une maison et un, bon, moi c'était de réaliser à l'âge adulte mes rêves d'enfant. Bon ben voilà, je les ai réalisés en grande partie.
Qu'est-ce qui a déclenché d'ailleurs ce rêve d'enfant, cette idée de devenir chercheur de trésors?
Parce qu'un jour, en faisant de la chasse sous-marine aux Caraïbes, je suis tombé sur des vestiges d'une épave, des canons et des trucs comme ça. Et c'est là que j'ai rencontré Cousteau, donc c'était en 67. Et Cousteau partait chercher un trésor sur le banc d'argent, qui est au nord de la République dominicaine. Et quand j'ai vu cette histoire-là, je l'ai suivi, parce que moi j'avais un petit bateau, et avec trois copains, on l'a suivi, et on a été plongé en même temps que lui sur la zone. Et on a trouvé plein de trucs. Bon, pas des trucs de grande valeur, mais des pièces d'argent. Enfin des...
Et on ressent quoi quand on fait une telle découverte? Parce qu'on vous voit raconter, là, Philippe Esnos, vous avez le regard qui pétille.
Oui, parce que c'est le meilleur moment. Le meilleur moment, je raconte dans mes bouquins, c'est quand vous êtes avec votre bouteille de plongée, vous arrivez et d'un seul coup, vous trouvez l'épave que vous avez cherché pendant 1000 heures dans les archives poussiéreuses en prenant le métro tous les soirs pour aller aux archives de la marine à Vincennes, et que vous êtes dans les canonnades de pirates, et que là d'un seul coup vous êtes au fond de la mer et vous trouvez l'épave à l'endroit que voilà, c'est là le plus grand moment.
Quelle est votre plus grande découverte dans cette carrière? 30 ans, depuis 30 ans vous êtes chercheur de trésors, mais le trésor qui vous a fait le plus plaisir
sans discuter les épaves bien sûr.
Les épaves avec Cousteau?
Non, sans Cousteau. Cousteau m'a donné le déclic. Le virus, quoi, ouais, ouais. Si vous voulez. Ah non,
est-ce que c'est vos premières découvertes?
Oui, c'est la première fois.
Et c'est pour ça que vous repartez, là, je crois qu'il faut que vous réussissiez à convaincre quelques autorités cubaines.
Là, on est plusieurs pour essayer d'avoir des autorisations sur une zone à Cuba, oui. Mais c'est très difficile. Très très difficile.
Alors ça c'est les meilleurs souvenirs, l'œil qui pétille, et puis forcément parfois c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que vous avez connu la prison?
Non, je raconte dans mon bouquin que je me suis fait arrêter en Équateur, je suis resté une quinzaine de jours à l'arrêt parce que il y avait des personnes qui avaient touché de l'argent, d'autres qui n'en avaient pas touché.
Alors ça, vous avez dénoncé?
Alors donc ils m'ont dénoncé, pour me faire de la pression, ils m'ont mis dans une prison. En réalité, ils m'ont mis dans une cellule où il y avait il y avait 15 lits, je crois, et 120 prisonniers. Donc pour me mettre la pression, quoi, si vous voulez, les prisons d'Amérique du Sud, c'est un peu, c'est un peu folklore quand même.
Vous avez réussi à vite vous faire protéger, je crois.
Oui, bah c'est pas compliqué. Dès lors, vous avez un peu de sous dehors, vous risquez plus rien. Bon, enfin bref, ce qu'ils voulaient, c'est que disons que le juge voulait me racketter. Et j'aurais pu sortir le soir même en lui donnant ce qu'il me demandait, mais je voulais, il n'était pas question que je paye le prix, c'est pas parce que voilà, donc c'est une question de principe. Donc ça a pris 3 semaines avant qu'on se mette d'accord sur le prix.
Avec le juge.
Et la vie quotidienne dans cette prison, c'était comment? On lit dans votre livre que vous meniez un peu la grande vie, vous commandiez des dîners au restaurant et vous aviez criminels comme garde du corps. Ah, c'est vous qui faisiez ça, hein?
Non, je dis pas. Je faisais venir...
On n'invente rien.
Non, mais c'est pas ça que j'écris. J'ai dit que je faisais venir la nourriture de l'extérieur. pour une raison très simple, c'est que la nourriture, d'abord sur place, il n'y en a pas, et quand il y en a, ce sont les gardiens qui la détournent pour leur famille. Donc il n'y a pas de nourriture.
Il n'y a pas à manger.
Donc voilà. Maintenant, si vous voulez de la protection là-dedans, vous amenez de la nourriture pour 6, 7, 8 personnes. Comme chaque individu qui est prisonnier avec vous a une famille et au moins 6 gosses, si vous en avez 8, vous faites vivre au moins 50 personnes. À partir du moment où vous donnez l'argent à l'extérieur pour faire vivre ces familles, bah les 6, 8 gaziers que vous avez à l'intérieur, ils vous servent de garde du corps instantanément. Il n'y a plus personne qui va vous embêter. Quoi.
Et voilà. Ça coûtait moins cher que ce que le juge vous demandait au début, c'est ça, si je comprends bien?
Oui, le juge, il a carrément attaqué à 5 000 $ au départ. On a négocié après, je ne sais plus combien, 700 $, enfin, ou un truc, moi, je ne me souviens plus. Enfin, c'était 10 fois moins que ce qu'il me demandait.
Quoi. Mais on peut faire ce métier de chasseur de trésors sans pratiquer le bakchich en permanence? Ou ça fait partie du jeu?
C'est-à-dire que c'est pas ça, c'est que vous allez vous retrouver un jour ou l'autre dénoncé, arrêté, voilà. C'est pas de chercher le trésor le problème, c'est dès lors que vous faites un truc qui n'est pas conforme. Parce que là, je raconte des histoires un petit peu acrobatiques. Mmh. Enfin, ce que je raconte pas, c'est je le raconte pas dans ce bouquin, mais je l'ai raconté dans un autre. J'ai quand même créé une sorte de fondation en Amazonie pour les orphelins. Là, pareil, il fallait payer les militaires et les policiers. Et je suis allé voir l'archevêque de Quito en lui disant, voilà, il y a un problème là. Lui, il a cru que je venais lui demander de l'argent. Je lui ai dit, non, je ne viens pas vous demander de l'argent, je viens vous demander que vous me fassiez le ménage là-bas, que la police et les militaires viennent plus me racketter vu que je fais ça, ça et ça. Et ça s'est arrêté instantanément. Donc je veux dire, vous savez, l'Amérique du Sud, le sport national avant le football, c'est la corruption. Après, c'est le foot. Mmh. Voilà.
Philippe Esnos,
est-ce qu'il y a encore un trésor qui vous obsède d'une certaine façon?
Non, je suis pas obsédé, mais j'en ai d'autres sous le coude, ouais.
Lesquels? Alors évidemment, vous n'allez pas nous dire exactement lesquels, où ils sont, etc. C'est pas ce que je vous demande, mais
c'est des trésors à terre et sous-marins. Mais je pense que ceux qui sont à terre, ça sera très très dur. Enfin, à moins d'avoir des autorisations, les permis, auquel cas c'est jouable. Mm-hmm. Et sous-marin, pareil. Mais maintenant, on est rentré dans une, on va dire, dans une époque où il faut des moyens colossaux, quoi, gigantesques.
Et c'est inépuisable, les trésors? Il y en aura toujours à découvrir?
Écoutez, il y en a qui se sont amusés à calculer combien il y en avait sur la Terre, on ne peut pas le croire. Vous, sous les mers, je veux dire. Enfin, c'est... Moi, personnellement, j'ai déjà, je ne sais pas, je dois en avoir plus de 1000. Enfin, pas de trésors, d'épaves. Bon, ils ne sont pas tous riches, hein, attention. Oh, les gros trésors mythiques sur la Terre, il en reste une cinquantaine de très gros. Ouais.
Donc encore quelques belles années de chasse au trésor, Philippe Esnos.
Oui, de très gros.
Merci, Merci beaucoup. Vous publiez vos récits d'aventure aux éditions du Trésor, les bien nommés. Et le dernier paru, c'est L'or des Incas, la plume de San Antonio, le look de Rambo et les aventures d'Indiana Jones, cocktail explosif.
Vous écoutez RTL.